Venus d'Orient, nos histoires, nos vérités.
Bienvenue dans Venus d'Orient, le podcast qui donne la parole aux personnes issues de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale en France. Moi, je m'appelle Naoudé Lamouchi et je suis très heureuse d'accueillir pour ce nouvel épisode Lilia Bensedrine Tabet. Lilia, elle est juriste de formation et spécialisée en droit international. Et c'est une engagée de longue date dans le dialogue interreligieux. Elle a grandi entre deux cultures, avec un père tunisien musulman, une mère française catholique, ce qui lui a permis dès l'enfance de faire de la diversité une richesse plutôt qu'une division. Aujourd'hui installée à Strasbourg, elle dirige le festival Sacrée Journée, un rendez-vous culturel qui est dédié aux musiques et aux traditions sacrées du monde. Un véritable rendez-vous de rencontre entre les croyances. Et à travers cette mission, elle œuvre pour faire du pluralisme religieux un pont et non un obstacle vers le respect mutuel, la compréhension et aussi la paix. Entretien avec Lilia Bensedrine Tabet. Bonjour Lilia.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter donc aux auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Je suis juriste, spécialiste en droit international que j'ai étudié en France et à l'Académie de droit international de La Haye, qui est adossée à la Cour internationale de justice, tout près de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, je tiens à le souligner parce qu'on sait combien le droit international est important. Et si on l'avait plus, je pense, appliqué, on n'en serait pas là dans toutes les violences que l'on rencontre.
Lilia, justement, pourquoi vous avez décidé de faire ce métier?
J'ai décidé déjà au début d'être dans le droit international parce que j'ai toujours eu l'ambition, je dirais la volonté, voire le rêve, l'espérance que par le droit, on pourrait rapprocher les États, les pays, rapprocher tout simplement les humains. Et je suis toujours dans cette espérance et c'est pourquoi je m'engage tout azimut sur cette voie de la rencontre de l'autre, de tout ce qui peut nous relier.
Lilia, vous êtes originaire de Djerba, en Tunisie. Vous avez ensuite vécu en France, vous vivez toujours actuellement en France, à Strasbourg. Est-ce que pouvez-vous nous raconter votre enfance?
Justement, j'ai eu, comme vous l'avez dit, des parents donc, d'horizons différents, de continents différents, Europe, Afrique, monde arabe, monde européen, Occident, Orient. Et islam, christianisme. Ma mère est française, catholique, mon père est tunisien, musulman. Et ils se sont rencontrés très jeunes, ils étaient étudiants, ils avaient une vingtaine d'années. Et donc c'est dans déjà cet environnement-là que j'ai baigné. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence en Tunisie. J'étais à l'école donc, tunisienne, j'ai étudié en arabe. Donc c'est dans ce milieu arabo-musulman que j'ai grandi avec une très grande diversité que j'ai rencontré et surtout, je dois dire, une très grande ouverture vers l'autre, un grand respect. Et maintenant, je me rends compte d'une très grande chance que j'ai eue, la chance que c'était dans un milieu de bienveillance.
Quel lien vous entretenez aujourd'hui avec la Tunisie, même si vous n'y habitez plus?
On y va régulièrement. Nous avons notre famille là-bas. Nous y passons notre été. Et bien entendu, c'est un lien familial fort. Nous avons les êtres chers. Et donc, ce lien, bien sûr, perdure, continue, se développe. J'ai aussi ce lien ici en France. C'est deux côtés de la Méditerranée que je traverse et qui, pour moi, sont une passerelle familiale aussi.
Qu'est-ce que vous aimez le plus là-bas?
C'est la lumière. Je suis toujours très étonnée par la force de la lumière. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de grands peintres qui ont choisi de s'installer dans ce pays, dans d'autres, autour de la Méditerranée, parce que c'est une lumière magnifique. Et les lieux, la Tunisie est très riche et de son histoire, de sa géographie, du nord au sud. C'est un tout petit pays, mais vous pouvez traverser les grandes forêts jusqu'au désert. Et évidemment, une histoire très riche qui vraiment évoque toute l'histoire méditerranéenne. Et puis, bien entendu, c'est les liens familiaux très forts que nous avons. C'est toujours une joie de me retrouver là-bas.
Et à partir de quand vous êtes venue en France?
Alors, c'était pour mes études justement de droit en tant qu'étudiante. À l'âge de 19 ans, j'ai travaillé un peu en Tunisie, un peu en France. Et j'ai fait aussi un Master 2, qui était le premier créé à l'époque à Strasbourg, religion, droit et société, islamologie. C'était tout nouveau. Les questions de religion me passionnent. Et parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les religions nous questionnent beaucoup les sociétés différentes. Et islamologie, l'islam questionne beaucoup. Il y a énormément de représentations, de préjugés. Je l'entends bien, beaucoup de rejets, souvent par ignorance, hein, ignorance réciproque qui ne font que s'alimenter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce master religion, droit et société, islamologie.
Donc, vous êtes arrivée en France pour vos études. Vous, vous attendiez quoi en arrivant ici ?
Je connaissais bon, déjà la France puisque je venais en vacances, donc je connais bien. Et puis, le fait d'avoir des parents de différentes appartenances, ce n'est pas les mêmes pays. Donc, il y a des choses très différentes, notamment l'appréhension de l'altérité. Et je dois dire que je suis arrivée à un moment où déjà, il y avait pas mal de préjugés par rapport aux musulmans. Il y avait en 2001, il y a eu, comme vous le savez, les tours jumelles. Donc ça a été vraiment une bascule et j'ai senti combien il y avait de méconnaissance et de rejet. Et là, je me suis dit, il va falloir s'engager.
Et vous l'avez vécu comme un tiraillement, le fait de partir ou pas du tout ?
Non, je dois dire que de mon côté, j'ai toujours vu la richesse du fait de découvrir. Donc partir, pour moi, c'était découvrir. Et puis quand on est étudiant, on est dans une trajectoire de connaissances. Ça a été pour moi plus facile certainement que d'autres qui découvraient la France. Mais bon, c'est toujours aussi, quelque part, partir, c'est laisser aussi des gens qu'on aime, hein, c'est laisser aussi des souvenirs précieux et qui nous sont chers. Mais c'est aussi s'ouvrir à autre chose. Et puis, j'ai eu l'impression qu'il y avait réellement, et de plus en plus d'ailleurs, je sens que c'est vraiment important de porter cette reliance et de porter et de construire des passerelles de compréhension. Quand je suis arrivée, bon, j'étais dans mes études, mais de plus en plus, je me dis, là, je connais deux mondes qui ne sont pas si différents, mais c'est plutôt nos représentations qui sont différentes et ce n'est pas les mondes, que ce soit chrétiens, musulmans ou Orient et Occident. Nous sommes tous des humains. Et le fait de partir, je me suis dit, c'est un engagement. Il faut, puisqu'on a cette chance de pouvoir connaître les uns et les autres, d'être des uns et des autres. Hein. J'ai des plus multiples appartenances et je me rends compte que c'est une richesse. D'ailleurs, j'aime bien évoquer multiples appartenances parce que ça résonne avec le livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières, où il dit nous ne sommes pas porteurs d'une identité, ou en tout cas notre identité est faite de multiples appartenances. Et pour moi, en l'occurrence, c'est l'Orient, l'Occident, le monde arabe, le monde européen, l'islam, le christianisme, ces cultures différentes. Et toujours au cœur de tout cela, moi je vois l'humain, l'humanité, tout ce qui peut nous rapprocher.
Et comment vous l'avez vécu, le fait de vivre dans un foyer avec une maman chrétienne, un père musulman ?
Je l'ai vécu de manière très riche. J'ai beaucoup de chance, c'est vrai, parce que mes deux parents étant les deux croyants, ils étaient très jeunes, hein, ils se sont mariés, ils avaient 20 ans, c'est des étudiants. Mais ils se questionnaient beaucoup, ma mère chrétienne, catholique, mon père musulman, se questionnaient beaucoup. Ils étaient entourés de couples comme eux, couples mixtes, hein, comme on les appelle, musulmans, chrétiens, en Tunisie. On a eu la chance, moi-même, d'ailleurs j'en ai bénéficié, d'avoir un entourage qui se questionnait sur nos religions différentes et avec quelqu'un qui est très connu, hein, qui a initié le groupe de recherche islamo-chrétienne, c'est le père Michel Lelon, et avec Abdelmajid Charfi, qui est un des plus grands savants de l'islam actuellement. Et ils avaient initié, ça je me rappelle de toutes ces discussions dans notre salon et ailleurs, ces écritures, ils ont écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Ces écritures qui nous questionnent la Bible et le Coran ». Et donc moi, je l'ai vécu dans un questionnement, dans la curiosité, dans le débat aussi. Hein. Il ne faut pas occulter nos diversités, hein, nos différences. Je dirais quelquefois nos divergences, mais celles-ci peuvent être tout à fait appréhendées avec beaucoup de respect, avec de l'écoute et avec de la bienveillance. Et c'est ce que j'ai eu la chance, cette connaissance qui m'a été offerte.
Cette double appartenance, donc à la fois française, tunisienne. Est-ce que dans votre parcours, ça vous a aussi porté défaut ?
Personnellement, je l'ai vécu réellement comme une richesse. Je m'en rends compte surtout aujourd'hui. Ça m'apporte une très grande ouverture. Mais il ne faut pas se leurrer. Bien entendu, j'ai connu des moments où j'étais beaucoup questionnée. Il y a eu des moments où on me disait, des deux côtés en plus, hors de l'Église, point de salut. D'autres retorquant, hors de l'islam, point de salut. Donc, je me disais quelque part, chacun ne voit que son côté. Et je me suis rendu compte, en parlant avec mes parents, bien entendu, parce que j'étais très jeune, hein, quand on essaye d'assigner l'autre à une seule appartenance exclusive et excluante. Ah ben toi, si t'es pas ci, donc c'est pas bien. Si t'es pas ça, c'est pas bien. Et donc, chacun essayant de s'approprier quelque part la personne en disant, voilà, ça c'est la bonne religion, ça c'est la vérité, là tu es dans l'erreur. Et je me suis bien rendu compte que c'était beaucoup plus dans la complexité que la vérité que certains veulent s'approprier. Ce n'est pas ainsi, surtout quand on est croyant. On sait bien que la vérité, elle n'est pas exclusive, elle est encore moins excluante. Parce que quand on est croyant, on sait que Dieu nous a créés tous dans une même et seule humanité. Et c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être dans cette humanité. Et donc, c'est respecter cette diversité et cette humanité. C'est ce que j'ai toujours compris depuis toute petite. Et j'en étais sincèrement, entièrement convaincue parce que je voyais bien ces diversités.
Lilia, vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui. Hein. Vous êtes juriste, vous êtes une femme engagée dans le dialogue interreligieux. Comment est-ce que tout cela coexiste au quotidien ?
Je le vis tout naturellement. D'ailleurs, je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, je fais du dialogue interreligieux depuis toute petite sans m'en rendre compte. Du fait d'avoir ces différentes connaissances, j'étais toujours amenée à expliquer les uns et les autres en disant, ben non, tu as des représentations tout à fait fausses sur les musulmans, tu as des représentations tout à fait erronées sur le monde arabe. Et puis, réciproquement, c'est tout naturel. L'engagement, il est du fait de mon histoire personnelle. Et puis aujourd'hui, il me semble que j'ai encore plus qu'un engagement, j'ai une responsabilité. Une responsabilité parce que je sens bien que beaucoup souhaitent nous diviser au nom de nos différences. Ils veulent les ériger en plus qu'en méfiance, en violence, en disant « mais l'autre, celui-là, on n'en veut pas ». Et donc, il me semble aujourd'hui que la responsabilité, c'est de témoigner, de dire que non, on est dans la différence et c'est normal, c'est notre humanité qui est ainsi, mais juste témoigner que oui, nous sommes ensemble, on est une seule et même humanité, et témoigner de la richesse de sa diversité.
Est-ce que le climat actuel vous inquiète ? Le débat public autour de l'islam, en France notamment ?
Et j'avoue, et malheureusement, et je le ressens et je le vis, il y a de plus en plus de tensions, il y a de plus en plus d'ignorance, et souvent érigée en méfiance, allant vers la violence contre l'autre. Donc je me dis, oui, c'est de plus en plus compliqué, et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler à la rencontre de l'autre. Parce que de toute façon, la rencontre, elle va se faire. Elle se fait, elle se fait au quotidien, elle se fait partout dans nos sociétés. Donc c'est plutôt comment on appréhende cela, de quelle manière. Est-ce que c'est en nous mettant en conflit, ou est-ce que c'est plutôt en essayant de le vivre de manière la plus apaisée ? Qu'est-ce que nous, on va proposer ?
Est-ce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, ce n'est pas un peu le combat de votre vie ?
Pour moi, c'est normal de vivre avec l'altérité, puisque moi-même, je suis, je dirais, issue de cela. Ce n'est peut-être pas un combat, mais ça devient de plus en plus une résistance à toutes ces tensions, à tous ces rejets, à tous ces préjugés. Et donc, c'est réellement maintenant un travail, un témoignage, une responsabilité.
Mais pourquoi est-ce que vous vous sentez responsable, en tout cas plus qu'un autre ?
Je vois bien que ce n'est absolument pas ce qui certains veulent faire croire, que c'est nos différences de culture, nos différences de religion, de couleur qui nous divisent. Et moi, je sais profondément et personnellement que ce n'est absolument pas cela. C'est réellement juste nos regards sur l'autre qui nous divisent bien plus que le fait que l'autre ait une religion différente ou une culture différente.
Et vous, aujourd'hui, cette double appartenance, ces cultures multiples qui vous appartiennent, vous les vivez pleinement ?
Ces passerelles que j'essaye de construire à une modeste échelle, que ce soit au niveau de mon parcours en tant que directrice du Festival des musiques sacrées du monde, des Sacrées Journées de Strasbourg, au niveau du Conseil de l'Europe en tant que co-présidente du Comité pour le dialogue interreligieux, au groupe d'amitié islamo-chrétienne, où on organise de très nombreux événements, les semaines de rencontres islamo-chrétiennes. C'est mon vécu. Et ce vécu, c'est d'amener à être dans la rencontre de l'autre, dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre, et dans ce tissage du lien qui fait réellement partie de notre humanité.
Enfin, Lilia, si vous avez des conseils ou un conseil à donner aux jeunes, notamment de la diaspora maghrébine, qui souhaitent s'engager.
Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça c'est important. C'est aussi avoir confiance en la vie. En la vie. Et moi, j'ai remarqué, du fait de mon parcours, j'ai eu des moments très difficiles où je me disais, mais là, ça ne va plus du tout. Enfin, vraiment des souffrances. De toute façon, comme tout le monde, hein, la vie, elle n'est pas simple. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, avec le recul, je me dis, ben, là, de là où tu étais, ben, finalement, comme on dit, d'un mal peut sortir un bien. Donc, c'est des fois... On déteste quelque chose et finalement on sort un bien. Des fois on veut quelque chose, on le désire ardemment et finalement dans ce quelque chose, c'est vraiment du mal qui pourrait en sortir. Et au contraire, des fois on a des épreuves très dures, on se dit mais comment on va s'en sortir? Et de cette épreuve, avec le temps et ce qu'on en fait, eh bien, on se dit finalement, il fallait passer par là pour arriver à ce que je suis. C'est vrai que la vie, elle nous porte aussi. Et à faire confiance à cette vie-là.
Merci beaucoup, Lilia, d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous.
Merci à vous.
Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités.